Moi, c'est Lucie et aujourd'hui, on accueille Aurore avec qui on va parler de reconversion professionnelle. Donc, Aurore, vous allez la retrouver dans le prochain livre, donc dans le tome 2. Ça, c'était le tome 1 des interviews de 50 femmes inspirantes. Et le 2 va bientôt sortir dans quelques mois avec notamment le témoignage d'Aurore. Donc, bonjour Aurore et bienvenue.
Merci de m'accueillir, Lucie. Je suis super contente de pouvoir partager mon expérience avec toi et puis toute ta communauté aujourd'hui.
Eh bien, c'est parti, je te propose qu'on démarre sur ton parcours. Quel a été ton parcours, d'où tu viens avant d'arriver dans le secteur de la reconversion professionnelle?
Alors, déjà, j'ai commencé, j'ai fait un parcours en école de commerce. Ensuite, j'ai attaqué comme une bonne élève dans la grande distribution, les grands groupes qui font un petit peu rêver sur le CV. Et assez rapidement, en fait, j'ai monté les échelons parce que, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui a rapidement compris, parce que j'ai un esprit en arborescence qui va un peu dans tous les sens et qui analyse beaucoup vite, même des fois trop vite. Et j'ai compris, en fait, rapidement ce qu'on attendait de moi sur le plan professionnel. Donc, ce soit lors des entretiens d'embauche ou des évolutions de poste. Donc, dans mes premiers postes, un de mes premiers postes dans la grande distribution, j'avais 4 magasins et 90 salariés à gérer à 23 ans. Donc, déjà, ça a été un premier gros challenge. Et puis, rapidement, bon, comme je te disais, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai évolué au bout de 3 ans. Et là, je suis passée chef des ventes, donc l'étape vraiment d'au-dessus. Donc, en fait, c'est collaboratrice, c'est chef de service. Et là, j'avais 500 salariés, 6 cadres et 20 magasins à gérer. Donc, on était vraiment dans une grosse ampleur au niveau de l'amplitude de travail. T'imagines que j'étais sous astreinte, je travaillais tous les jours, jour et nuit. Pour compenser, j'avais un super salaire, j'avais une belle voiture qui allait avec. Donc, ça, c'était les petits côtés sympas. Tu te dis, j'ai un statut, waouh, j'ai moins de 30 ans, j'ai réussi ma vie, j'en suis à là. Donc, ça, c'était avant mon parcours de transition.
Qu'est-ce qui t'avait poussé à aller dans cette direction-là? Pourquoi la grande distribution? Pourquoi ces postes à responsabilité?
Alors, moi, je suis vraiment une fonceuse. Depuis toujours, je suis quelqu'un qui adore le management. Bah, je l'avais fait, en fait, si tu veux, mon mémoire de fin d'études. Déjà, quand j'avais la vingtaine, je l'avais fait sur la motivation dans l'équipe de travail. Depuis mes 17 ans, j'étais animatrice de colo. Et si on revient vraiment encore dans le passé, déjà en maternelle, c'est moi qui jouais à la maîtresse et qui dirigeais un peu tout le monde. Donc en fait, ce côté leaduse, ce côté un petit peu donner des conseils et aider à ce que les autres progressent, je l'ai toujours eu. Et dans la grande distribution, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut te donner des responsabilités assez vite, peu importe si tu veux ton background, que tu sois un homme, une femme, que tu viennes de n'importe quelle origine sociale ou culturelle, ça te permet en fait d'avancer très rapidement. Donc ça a été ça mon levier de motivation.
Et donc, une fois que tu avais ce job de rêve avec toutes ces responsabilités, ce super salaire et cette voiture de fonction, c'était quoi le problème? Pourquoi t'es pas resté là?
Alors je suis montée, et en fait quand tu arrives en haut en fait de ton objectif, tu te dis enfin moi personnellement je me suis dit mais attends, c'est quoi le but? C'est quoi le sens? C'est quoi la suite en fait? Parce que la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire être directrice régionale, cette fois avoir 2500 personnes sous ses ordres, avoir encore moins de vie. Et surtout, ce qui m'a dérangée, c'est que plus tu montes en fait dans la hiérarchie, plus tu vas t'éloigner finalement du contact humain. Et ça, c'était moi ce que je préférais finalement. C'était réussir à faire évoluer mes salariés, avoir ce contact de proximité. Et en fait, j'étais arrivée dans un poste où j'étais devenue très politique. C'est-à-dire que là, voilà, y a des niveaux managériaux, si tu veux, et quand tu arrives à un certain niveau, bah, tu es dans la politique, et ça s'est heurté à mes valeurs humaines, donc donner des fois des ordres auxquels je n'étais pas d'accord sur le plan humain. Et donc c'est là que j'ai eu un déclic et je me suis dit, non, mais c'est quoi la suite de ma carrière, en fait? Et donc j'ai fait switch collectif, donc le bilan de compétences. Et c'est là, en fait, ça a été le déclic. Je le savais au fond de moi, mais ça a été le déclic pour me dire, bah, j'ai envie de continuer ce que j'aime faire, c'est-à-dire accompagner à l'évolution professionnelle de ma population. À l'époque, c'était mes salariés, ma population. Donc, je les faisais monter, je les faisais évoluer, avoir des promotions. Je réussissais à les muter plus près de chez eux. Bref, plein de choses humaines. Et je me suis dit, bah, OK, je vais enlever tout ce que j'aime pas, les inventaires, vendre des boîtes de conserve, tout le politiquement correct. Et finalement, je vais aider les femmes, particulièrement, on y reviendra après, à croire en elles et à comprendre en fait comment évoluer professionnellement et comment atteindre leurs objectifs de carrière. Donc ça a été le déclic et ce que je fais maintenant.
Ok. Par quoi tu l'as compris? Il y a eu un exercice, un outil particulier chez Switch Collective, enfin, ou pendant ton parcours, qui t'a aidé?
L'exercice du pourquoi, en fait, l'exercice du pourquoi, c'est-à-dire quelle est ta mission sur Terre, pourquoi tu es là en fait. Et à ce moment-là, pour beaucoup de monde, ça a été un exercice qui a été assez dur, remuant. Et moi, en fait, en une seconde, j'ai écrit ma phrase. j'ai écrit ma phrase directe et je me suis dit, j'ai envie de faire briller les femmes autour de moi et qu'elles prennent conscience de leur valeur et qu'elles arrivent à le traduire dans le monde professionnel. Il y a un truc qu'une de mes anciennes responsables m'avait toujours dit, elle me dit, mais Aurore, toi, c'est pas possible. Tous les salariés que tu as, même les pires, même ceux qu'on ne supporte pas, tu arrives à leur trouver une belle qualité. Tu arrives à trouver le bien, même dans le salarié qui est vraiment, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et du coup, ce côté, si tu veux, de visualisation de l'intégralité de la personne, mais vraiment de sa beauté, eh ben, ça a été ça mon pourquoi. Et maintenant, il y a OK, on sait pourquoi pourquoi tu brilles dans ce monde-là. Maintenant, je vais t'aider à le faire savoir en entreprise. Parce que bien sûr, moi, j'ai ce côté, tu sais, très punchy, très pratico-pratique, où OK, c'est bien de savoir quelle est ta compétence, mais maintenant, OK, on va faire en sorte de le traduire et que tu atteignes ton objectif. Parce que moi, ce qui me fait avancer, c'est pour ça aussi que je suis dans la grande distrib et que je fais plein de projets, c'est avoir du résultat rapidement. Donc, c'est ce côté pourquoi, tu vois, pour revenir à ta question, c'est la réflexion sur mon pourquoi qui m'a vraiment dit, mais OK, Aurore, ton pourquoi, c'est pas de vendre des boîtes de petits pois, c'est de faire en sorte que les personnes voient ce qu'elles ont de merveilleux au fond d'elles.
Ok. Et donc ça, c'est ton métier aujourd'hui.
Exactement.
Comment tu décris ton métier? C'est quoi ton intitulé de poste? Puisque...
Alors, oui, mon intitulé de poste, alors moi, je me considère comme une conseillère en gestion de carrière. Donc, en fait, faut bien comprendre, en fait, dans tout ce qui est transition de carrière, réorientation, switch, changement de poste, en fait, c'est un long chemin, en fait, c'est un super long processus. Déjà, il y a la première étape, c'est de se rendre compte si on est bien ou pas dans son travail. Ça, c'est la première étape. Déjà, l'évaluation de si on se plaît, on ne se plaît pas. Ensuite, si on sent un inconfort, on va se dire, OK, on va se poser des questions. En l'occurrence, moi, j'ai fait switch collectif, mais il y a aussi plein d'alternatives. On peut faire des bilans de compétences. Donc là, déjà, pour oser faire un bilan de compétences, ça demande quand même une remise en question. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis 6 mois avant de m'inscrire. Je me suis dit, je le fais, je ne le fais pas. Donc déjà, il y a cette introspection. Ensuite, il y a le temps du bilan, qui peut durer entre 3 mois et 6 mois. Ça va dépendre quelle formule on prend. Et ensuite, quand on sort du bilan, ben, en fonction de son niveau de maturité de projet professionnel, soit, par exemple, moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, c'était assez facile. C'était juste, fallait juste que je valide en fait mon idée et que je me convainque que ce soit de me faire confiance. Mais par contre, il y a des personnes qui arrivent au bilan de compétences. Ils sont vraiment, OK, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, suite à ça, là, je pense que ce qui est très important, en fait, c'est de faire appel à un coach individuel pour finalement mettre en pratique les différentes pistes qui sont sorties du bilan de compétences et se dire, OK, t'aider dans ta réflexion et te dire, OK, je vais aller essayer cette piste-là, comment je le fais, par quel outil? Parce que souvent, après un bilan de compétences, ben, on retombe un petit peu, on se dit, OK, j'ai fait tout ça, on m'a donné des pistes, maintenant je suis tout seul, comment je fais? Donc, il y a cette partie ensuite de coaching que toi, je sais que tu proposes et je pense que c'est vraiment ça qui fait vraiment la différence. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait des bilans de compétences et elles ont sorti avec des QCM. Des super schémas, et après, on fait je fais quoi, Aurore? J'ai dit, ben, là, pour le coup, moi, c'est pas mon métier. Moi, j'arrive à la fin de ce processus-là, en fait. Donc, ensuite, on fait appel à un coach pour vraiment savoir, OK, qu'est-ce qu'on veut? Et une fois qu'on sait où on veut aller, on a la formation adéquate, bien sûr. Donc, là, il y a aussi des fois une période de formation qui peut être assez longue. Et ben là, moi, j'interviens, c'est là où j'arrive et je fais coucou, je vous aide à réussir vos entretiens d'embauche, à réussir finalement, votre positionnement professionnel. Et donc là, c'est vraiment des conseils concrets sur le CV, la lettre de motivation, la négociation de salaire. Donc c'est vraiment tout ce processus et il faut en avoir conscience parce que du coup, c'est quelque chose qui est assez long. Et voilà, il faut en avoir conscience. Et moi, j'arrive vraiment à la fin de ce processus-là, et du coup, c'est très opérationnel et c'est ce que je préfère.
Ok, top. Parce que du coup, en encadrant déjà des équipes assez grandes, tu vois de suite dans un CV ou un entretien d'embauche ce qui est important, quoi.
C'est exactement ça. En fait, si tu veux, moi, j'étais manager, chef de service, mais dans la grande distribution, en fait, tu fais tout. C'est-à-dire que tu vas du recrutement. à la gestion de ton équipe. Donc moi, j'ai évalué plus de 800 candidatures, que ce soit de la caissière jusqu'au cadre. Ensuite, tu vas gérer ton équipe. Donc tu vas leur faire les fameux entretiens annuels d'évaluation, évaluer les compétences, donc voir finalement la meilleure zone de compétence du salarié et l'aider justement à se perfectionner. Et ensuite, mon côté managérial, c'est vraiment un plus, si tu veux, par rapport à juste des conseils RH, parce que sur Internet, on voit, ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, conseil RH, mais finalement, le RH, il va devoir aller une heure dans ta carrière pour l'entretien, mais ensuite, c'est le manager. Et en fait, l'avantage, c'est que moi, je vais leur donner des clés sur vraiment qu'est-ce que le manager va attendre d'elle au quotidien. Et donc, c'est ça qui fait vraiment la différence dans ce que je peux proposer, dans les accompagnements. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait aussi bien.
Comment tu as fait pour te lancer? Alors déjà, tu as eu cette phase d'hésitation de est-ce que je fais un bilan de compétences ou pas? Qu'est-ce qui te freinait et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans le bilan de compétences? Et après, on parlera du reste.
Ouais, alors ce qui m'a... Là où j'hésitais en fait, c'est de me dire est-ce que je me sens de me lancer à mon compte? Parce que finalement, bah, quand tu es dans une entité, dans une entreprise, tu sais que tu as ton salaire qui tombe tous les mois. En l'occurrence, moi, j'avais quand même plein d'avantages. Donc, plus tu as d'avantages, plus finalement, c'est une cage dorée. Tu te dis, bah non, mais ce serait dommage. Le poids aussi de l'entourage qui te dit, non, mais attends, tu as fait des études dans management, tu as fait tout ça pour arriver au sommet, pour au final dire, ah ben non, j'en veux plus. Donc, du coup, tu as aussi le côté, tu as la peur de décevoir un peu quand même ton entourage. Il y avait aussi par rapport à mes équipes, parce que moi, ça se passait super bien. Enfin, mes équipes, quand je suis partie, ça a été un. Enfin, pour eux, ils m'ont fait des témoignages de fou. Et donc, ça a été dur aussi, des fois, de partir quand tu sais que tu es très apprécié pour ce que tu fais, mais que toi, tu te sens plus finalement en phase. Donc, il y a ça. Et ce qui a fait que j'ai eu le courage de partir et finalement de me lancer, c'est aussi de voir mon conjoint qui, lui aussi, dans l'entrepreneuriat, donc ça fait 5 ans, et finalement d'avoir une vision réaliste. Parce que pour moi, on entend souvent, ouais, les entrepreneurs, ils travaillent jour et nuit. Alors oui, il y a des moments où on travaille jour et nuit, ça c'est sûr, mais il y a des moments où par contre, on doit être là. Je prends l'exemple, ma grand-mère a été récemment très malade. Et ben, mon conjoint, il a pu prendre son après-midi et il s'est dit non, on y va tout de suite, on va la voir à l'hôpital. Et ça, tu ne peux pas forcément le faire quand tu es à ton compte. Donc finalement, avoir quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et qui réussit à trouver quand même cet équilibre, ben, ça, je me suis dit ben, finalement, c'est possible et que c'est faisable. Et du coup, ben, on se soutient, même si des fois, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a vraiment le côté soutien qui est important, je pense, pour se lancer.
Je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant et qui revient dans quasiment tous les parcours de reconversion que moi j'ai vus. C'est parfois le manque d'ancrage dans la réalité dans laquelle on a envie d'aller. Et donc, tu venais d'un secteur où il y avait beaucoup de salariés, où c'était des grandes entreprises, et tu vas aller vers un secteur où c'est... Enfin, du coup, c'est de te mettre à ton compte. Donc, tu as besoin d'exemples autour de toi qui font ça. Moi, j'ai eu le cas là récemment sur moi-même. Moi, je baigne dans l'écosystème de micro-entrepreneurs, de freelance, etc. Et là, je suis en train d'aller sur un autre projet qui est complètement différent. Et en fait, l'étape, c'est une des premières étapes qu'on a à faire avant de dire oui et d'aller dans ce secteur-là. C'est de, je trouve, moi en tout cas, ça me sert beaucoup, de prendre des rôles modèles, enfin des personnes qui sont déjà dans cet écosystème, pour voir un petit peu à quoi ressemble leur réalité, comment ils en parlent, etc. Donc toi, d'avoir ton conjoint là-dedans, je suis sûre que ça pouvait bien t'aider. Et de façon générale, voilà, de se créer aussi un entourage qui ressemble un peu plus à la réalité vers laquelle on a envie d'aller. J'avais l'exemple aussi là ce week-end de personnes qui veulent quitter un très grand groupe pour créer un écolieu. Voilà, des écosystèmes hyper différents. Je pense que une des premières étapes, alors je ne sais pas trop dans laquelle des trois étapes à classer, peut-être dans la deuxième, hein, après le bilan de compétences, plutôt dans la partie accompagnement coaching, hein, avant d'aller vraiment mettre en place ton nouveau projet, c'est d'aller à la rencontre sur le terrain de gens qui sont déjà dans cette réalité-là pour faire un espèce de reality check aussi, vérifier qu'en fait, les horaires de cuistot, c'est vraiment ça qui te plaît. Si tu as envie
exactement
de
ça, c'est hyper important. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça, tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper important et j'en profite pour aussi préciser, spoiler alerte, on change d'amis aussi, on change de cercle amical en fait. Et donc moi, ce que j'ai eu comme chance, c'est donc il y a mon conjoint qui lui était déjà depuis de nombreuses années dans cette atmosphère-là. Donc forcément, son groupe d'amis, ben, il avait changé aussi. Donc j'ai pu, c'est un peu comme une acculturation. Et j'avais aussi des amis qui avaient déjà donc des copines. Donc là, le côté féminin aussi, ça compte parce que l'entrepreneuriat masculin et l'entrepreneuriat féminin, c'est deux choses différentes. Et l'entrepreneuriat féminin, ce que j'aime bien, c'est que ces amis-là, et même des femmes que je ne connais pas forcément tout de suite, elles vont me dire vraiment la réalité de ce que c'est. Elles vont me dire, bah oui, voilà, on a ça comme difficulté. Il y en a aussi qui sont mères de famille parce que voilà, moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais je me projette aussi dans à quoi ça va ressembler finalement. Et le fait d'avoir eu des amis qui l'ont fait, qui m'ont parlé bah, de la, comme tu dis, reality check, est-ce que ça va vraiment se passer comme je l'entends, c'est hyper important. Et ouais, mon cercle d'amis a beaucoup changé. Et au final, bah, j'ai maintenant la majorité de mes amis qui sont entrepreneurs. Alors, on fait toutes des choses hyper différentes. Mais finalement, bah, on se comprend. Et je pense que ça, c'est important. Et finalement, c'est pas perdre des amis, c'est s'en faire des nouvelles. Et c'est ça qui est top.
Ouais, carrément. Et du coup, alors, comment, une fois que t'as mis en place ce projet dans ta tête, que tu as rencontré quelques entrepreneurs, c'est quoi les premières étapes pour te mettre à ton compte? Déjà, est-ce que tu as fait une rupture conventionnelle? Comment ça se passe concrètement?
Ouais, c'est exactement ça. Donc, j'ai fait switch en fin 2019. Et clairement, au milieu de... j'ai pas attendu la fin des 3 mois de switch. Au bout d'un mois, j'ai eu ma petite voix intérieure qui m'a dit « Ok, c'est parti. » Et donc, si tu veux partir avant... Enfin, voilà, si tu veux partir, vu qu'il y a 3 mois de préavis, faut faire ça proprement. Moi, ce que je conseille, en plus, vu que j'étais aussi côté RH manager... C'est bon, moi j'ai fait une rupture conventionnelle parce que c'est le moyen qui te permet aussi quand même d'assurer tes arrières, faut pas se le cacher, d'avoir le soutien de Pôle emploi pendant 2 ans pour lancer ton activité, c'est quand même non négligeable. Et surtout, c'est aussi quand même très important, je pense, de partir en bon terme avec ton employeur, peu importe la situation. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce qu'au final, quand tu es entrepreneur, après la suite, c'est quand même ton réseau, ton image. Et on ne se rend pas compte à quel point même des gens qui sont dans une autre sphère, donc moi, c'était la grande distribution, et je me suis dit, non, mais le coaching de carrière, jamais ils vont m'envoyer du monde. Et bien, finalement, le fait d'avoir laissé une bonne trace, une bonne image, ça a été super important. Donc, rupture conventionnelle, 3 mois après, au revoir, les petits salariés qui pleurent, moi qui pleure, tout le monde qui pleure. Et puis en fait, j'ai pris un petit peu de temps pour moi déjà pour me ressourcer parce que quand même, c'est un gros coup psychologique, t'as un contre-coup en fait quand même quand tu pars et que tu te lances dans ton projet. Et déjà, depuis 6 mois, tu parlais de comment j'ai aussi testé mon projet. Je l'ai testé en bénévole, en fait. Et là, pas bénévole, juste moi qui viens des petites annonces, je vous aide, les copains, copines, non. Je me suis inscrite dans une association qui fait finalement qui a le même objectif que moi. Donc, c'est du coaching en insertion professionnelle qui s'appelle la Cravate Solidaire. Cette association, si tu veux, elle s'occupe donc dans un premier temps de faire un coaching en image. Donc le bénéficiaire, il va arriver, il va être relooké, donc il est relooké en tenue d'entretien, et ensuite il va passer dans un petit bureau, et là c'est là où j'intervenais en tant que coach RH pour faire passer des entretiens fictifs. Et le fait, en fait, comme tu disais, est-ce que le métier de cuistot, ça te convient? Ben là, clairement, j'ai été confrontée, ok, est-ce que faire ça pendant 5 heures dans une journée du coaching, parce que je faisais plein d'activités dans mon ancienne vie, mais ce n'était pas 5 heures d'affilée de coaching. Tu avais un peu de compta, tu avais plein d'autres événements entre-temps. Et là, je me dis, ok, est-ce que 5 heures d'affilée et 5 heures aussi le matin, parce que c'est ça, au final, ma réalité, est-ce que ça me plaît? Et en fait, ça s'est super bien passé. Ensuite, j'ai aussi fait une grosse étude de marché. Pour trouver finalement ma différenciation sur le marché, qu'est-ce que je pouvais apporter de nouveau. Ça, c'est vraiment une étape obligatoire parce que si tu arrives et tu te dis, moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. J'ai vu entre moments, j'ai vraiment trouvé mon positionnement et j'ai trouvé du coup le message, j'étais alignée avec moi-même en fait. Et c'est là que mes clients sont venus à moi. C'est finalement en réduisant ma cible que bah, j'ai attiré des gens qui me ressemblaient, mais comme deux gouttes d'eau, et donc là, j'étais trop contente.
C'est hyper contre-intuitif. Hein. On a l'impression que plus on va réduire notre persona et moins on va avoir de clients. Et en fait, c'est tout l'inverse.
Carrément, c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que je suis spécialisée dans les femmes, vraiment, et avec toutes les problématiques qu'on peut avoir. D'une, parce que je les ai vécues. femme en tant que manager, il faut faire sa place, ou même femme qui veut évoluer, femme qui veut négocier. Faut quand même rappeler qu'on a à temps de travail égal, hein, c'est quand même 16,8% de salaire en moins. Donc, ça veut dire deux cadres qui vont avoir le même temps de travail, ils vont avoir ça, et à poste égal, 6%. Donc, voilà, il y a vraiment une problématique avec aussi le retour de congé maternité, de parental, de positionnement aussi, de posture. Et donc, je me suis dit, non, mais là, il y a vraiment trop de choses à améliorer, il y a trop de choses où je pourrais aider finalement à faire briller les femmes. Donc, c'est là où je me suis dit, allez, les hommes, je les mets de côté et on s'occupe que des femmes et ça se passe au top.
Du coup, ça fait 2 ans que tu t'es lancée?
Oui, ça fait 2 ans, exactement.
Comment tu as
Ça fait
trouvé
deux ans et
tes
quelques mois.
premières clientes? Est-ce que c'était du bouche à oreille? Est-ce que tu as mis en place des stratégies particulières?
Oui, alors, donc sur les conseils de mon conjoint qui lui aussi, donc lui, il a beaucoup d'avance sur moi. Il m'a dit, Aurore, il faut déjà que tu crées une communauté, qu'on connaisse ton expertise. Parce que finalement, ok, une coach en transition de carrière, pourquoi toi? Finalement, pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi finalement le média que je maîtrisais le mieux. En l'occurrence, moi, c'est Facebook. Je ne suis pas encore très, très au point sur Instagram. Donc, je suis passée sur Facebook. J'ai fait mon groupe privé qui s'appelle Dans la tête d'un recruteur. Et là, en fait, je me suis lâchée. J'ai montré ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai écrit des articles sur justement comment réussir ses entretiens de recrutement, comment convaincre un recruteur, comment convaincre un manager d'évoluer, mais toujours avec mon côté décalé. Par exemple, un des derniers articles que j'ai fait, ce n'est pas comment faire une belle photo de CV, mais c'est photo de CV, comment éviter le fashion faux pas avec la photo de Carrie Bradshaw. Tu vois, je montre finalement mon univers, mon côté rigolo, mon côté décalé. Et bien sûr, quand on lit, on se dit, ah oui, non, mais en fait, elle sait de quoi elle parle, même si elle met des images un peu rigolotes et qu'elle a un ton où des fois elle les cache, ça se voit que derrière, il y a de la bouteille. Et donc, ce qui est très important, c'est de montrer son expertise, je pense. Et après, assumer son univers. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu assumes ton univers et que tu es aligné avec ton projet de vie, ben, finalement, tu attires les clientes qui te ressemblent. Et ça a été vraiment, moi, je ne m'attendais pas à avoir des clientes où je me disais, mais limite, j'ai envie d'aller boire un verre avec elles. Elles sont trop. On est trop alignées, quoi. Tu vois, je me dis, mais. Et tu attires finalement comme ça des gens qui te ressemblent. Et c'est pareil après dans ta communauté d'entrepreneurs. Ben, j'ai connu aussi d'autres femmes qui étaient comme moi. Et finalement, on se retrouve à vivre les mêmes choses. Et c'est ça qui est super agréable, contrairement des fois au monde du travail où finalement, enfin, le monde professionnel en entreprise, on t'impose. Des personnalités qui sont à l'opposé de toi et contre tes valeurs, vraiment.
Yes. Et donc, qui c'est que tu as invité au début dans cette communauté?
Alors, dans cette communauté, eh ben, je suis passée par Switch parce qu'au final, Switch, c'était le début. Et ensuite, alors, j'ai fait un travail de fourmi. J'ai été sur tous les groupes. Non, mais là, j'ai fait un travail de fourmi, comme tu dis. Bah ouais, super, elle a fait son groupe, elle a fait ses beaux postes. Maintenant, comment elle fait pour faire venir sa communauté? Je n'ai pas fait de pub parce que justement au début, je me disais, non, je ne fais pas de pub, c'est ma fierté, les gens doivent venir. Bon, quand j'ai invité mes amis, j'ai eu 20 personnes. Là, je suis à 400. Donc, j'avais 20 personnes et au fur et à mesure, en fait, j'allais sur Facebook sur des groupes donc de personnes qui se questionnaient, de femmes, de personnes qui me ressemblaient, qui étaient vraiment des gens avec une pensée en arborescence. Et dès qu'il y avait une question, donc je triais, je filtrais, je mettais entretien, recrutement. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui disait au secours, je ne sais pas comment faire pour mon CV, j'ai un entretien demain, quelqu'un peut m'aider, et ben en fait, je répondais. Donc en fait, si tu veux, je donnais de la valeur ajoutée, mais naturellement. Et de toute façon, ces personnes-là qui allaient sur mon groupe, enfin, je ne faisais pas de la pub après en les harponnant. Non, c'était vraiment l'idée, c'était de partager ce que je savais. Et ensuite, bah écoute, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, bah c'est ouvert. Mais c'était vraiment ce côté bah, de partage, vraiment de don. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la vente. C'est comme un échange, en fait, chamanique égalitaire. C'est vraiment, tu donnes de toi. Et ensuite, bah, du coup, bah, l'univers, en fait, te le rend. Et ce qui était marrant, c'est que les premières ventes, ça n'a même pas été des gens du groupe. Ça a été des gens qui m'avaient entendu par le biais d'un copain ou d'une copine qui était sur le groupe. Et qui m'ont contacté. Mais t'as besoin quand même d'un espace d'expression. Donc, il y en a, ça peut être YouTube. Bah, moi, c'était ce groupe d'expression. Et après, on m'a contacté sur LinkedIn et sur Facebook pour faire les coachings. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières clientes.
Ok, top. Donc ça ressemble à quoi un accompagnement avec toi? Ça dure combien
Alors,
de temps? Sur quoi vous travaillez?
concrètement, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé sur mes modules théoriques, donc des PowerPoint, où je mets vraiment toute mon expérience, tout ce que l'essentiel, en fait, si tu veux, de tout ce qu'il faut savoir pour réussir son entretien, son pitch, négocier son salaire. Donc, je mets tout ça dans un PowerPoint qui évite de devoir aller sur 50 sites internet où ils te disent tout et son contraire. Donc, ça, je l'envoie à mes clientes. Donc, bien sûr, on fait d'abord un rendez-vous pour cadrer l'objectif, le timing, etc. Donc, avant chaque session Zoom, donc moi, je travaille en individuel sur des sessions Zoom. Elles reçoivent donc leur PowerPoint où il y a toute la présentation plus des exercices à faire. Et quand elles arrivent pendant le coaching, comme ça, en fait, on fait une heure, mais on fait une heure intensive avec leurs questionnements particuliers. Ça peut être très bien, tu vois, on fait une heure sur le CV et elle va me dire, OK, j'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas? Ça, pour avoir la solution, ce n'est pas en tapant Google sur Internet, tu vas avoir. Et en fait, en fonction de sa spécificité, de tout ce qu'on aura échangé, je vais pouvoir lui donner le meilleur conseil. Ensuite, on va faire des exercices aussi de mise en situation, par exemple, mise en situation d'entretien d'embauche, aussi des parties en anglais, quand il y a des exercices en anglais. On va faire aussi de la négo. Et là, je peux dire que quand on fait de la négo, quand on fait des exercices de négo, je les chahute. Et au final, ce qui est trop drôle, c'est que mes clientes, à chaque fois, elles me disent, mais Aurore, en fait, tu es 10 fois plus exigeante que les recruteurs. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin. Et quand elles sont après un entretien, elles font « Ah, mais c'était ça, mais ça va largement. » Et en fait, c'est vraiment cet exercice qui va leur faire dépasser leur peur. Et comme ça, quand elles vont y aller, elles vont être sûres d'elles, elles vont oser. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Et comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans le concret, à la fin de chaque session, j'envoie la synthèse et surtout le plan d'action. Et le plan d'action, ça peut être des trucs super simples comme refaire sa photo de CV ou alors s'inscrire sur une formation Excel, par exemple. Tu vois. Donc, ça va être plein de petites actions, de petits pas qui vont faire qu'à la fin, en fait, des différentes sessions, on va arriver vraiment avec un objectif qui est atteint. Et pour l'instant, ça se passe super bien. J'ai une de mes dernières clientes qui a quand même réussi avec une négo, déjà avoir un nouveau poste, à devenir manager et en plus à gagner 17 000 euros de plus par an. Donc, c'est des gros résultats et c'est pas négligeable. Donc, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de me dire j'ai un impact sur la vie de ces femmes, en fait. De me dire, à 42 ans, ses enfants, ils sont grands. Maintenant, elle ose devenir manager et je vais l'accompagner. Et du coup, au final, cette cliente, elle m'a redemandé, elle m'a dit, Aurore, est-ce qu'on pourrait faire un coaching pour de la prise de poste pour que ça se passe bien? Donc, voilà concrètement comment ça se passe. Ça va durer en général, ça dure 6 semaines. Et puis, il y en a que ça va durer entre 6 et 8 semaines en général. Voilà, c'est à peu près les durées.
J'ai l'impression que tu as tout évoqué. Je vais te demander des résultats, enfin, des exemples de clients dont tu étais fière, mais tu viens déjà de nous en donner. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête.
Si, j'en ai d'autres. J'ai une cliente en fait, qui était dans le système bancaire et elle était en congé parental. Donc elle m'a... D'ailleurs, j'adore parce que quand elle m'a contactée, elle m'a fait « Aurore, moi, je suis en congé parental, mais je suis une warrior, c'est mon deuxième. Quand je reviens, j'en ai marre de travailler le samedi après-midi dans les agences. J'ai envie d'aller au siège, pas pour me planquer, mais justement pour avoir une augmentation, finalement, une promotion, être au siège et être vraiment dans les opérations, décider des process, etc. » Elle m'a dit, par contre, ils vont me mettre des bâtons dans les roues parce que forcément, je suis étiquetée comme gestionnaire dans un... Voilà, dans les femmes de terrain. Pour ceux qui ont bossé dans des boutiques, voilà, il y a les boutiques et le terrain. Nous, on est considérés comme un petit peu les opérationnels. Et puis, il y a le siège où là, c'est costard cravate, on est bien. Donc, du coup, il y avait vraiment ce challenge de réussir à... Elle revenait de parental et finalement, réussir à convaincre ses employeurs qu'elle en était capable. Donc de monter d'un niveau, de changer de domaine parce que c'était du marketing cette fois-ci et finalement on a réussi, donc j'étais trop contente et c'est ces femmes ces femmes déterminées de me dire je leur ai donné le petit déclic, le petit code et c'est ça qui me fait vibrer finalement dans tout ce que je fais.
Top. Tu me disais tout à l'heure que tu avais préparé quelques conseils pour les personnes qui voudraient se lancer. On t'écoute.
Carrément. Alors, pour se lancer, déjà, il faut s'attendre. Déjà, à quoi s'attendre ? Tout prend plus de temps que prévu. Ça, c'est un truc qu'on m'avait dit. Mais en tant qu'impatiente, je me dis, ça, c'est pour ceux qui... C'est pour les autres. C'est pas pour moi. C'est moi, je vais réussir. Je suis quelqu'un qui va vite et tout. Non, tout prend plus de temps que prévu. Savoir s'entourer. Moi, ce qui m'a vraiment aidée, ça a été de faire partie de réseaux féminins. Donc, je fais partie de plusieurs réseaux Donc, où je vais épisodiquement, en général, c'est une à deux fois par mois. Et ça permet, en fait, de se recentrer, de remettre du boost et se rendre compte qu'on vit toutes les mêmes choses. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et surtout, en général, dans les réseaux féminins, comment ça se passe? C'est que tu as, par exemple, une soirée, ça va durer 3 heures. Tu commences par une présentation qui va te former. En général, c'est une formation sur un sujet. Donc, ça peut être le référencement, ça peut être comment vendre ses prestations. Donc, déjà, toi-même, tu as une formation. Et en fait, tu t'obliges à y aller et pas comme les webinaires où on s'inscrit toutes et qu'on écoute à moitié. Donc, tu fais une formation et ensuite, après, tu as une partie réseautage, networking et ça fait vraiment du bien. Un autre conseil, on parlait tout à l'heure aussi de l'entourage. Écouter les conseils des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et pas de ton cousin qui a vaguement tenté un truc il y a 10 ans ou de ton père qui est complètement flippé parce que tu quittes ta belle situation. En gros, c'est d'écouter des conseils des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont réussi. Je mets aussi le curseur à ce niveau-là. Et un autre point, c'est voilà, donc la patience, le networking, les bons conseils et surtout quand on a des moments un peu durs, ce qui arrive. Se rappeler son pourquoi et pas hésiter. Moi, je fais vraiment des vision boards où j'ai aussi un petit tableau où je mets tous les commentaires super positifs qu'on a pu me donner, se le rappeler dans les petits moments où on doute parce qu'il y en a. Et ça, c'est vraiment super important. Et aussi, pas hésiter à se faire accompagner parce que moi, ça a été le cas pour du coaching, même quand on est entrepreneur, en fait, se faire accompagner, c'est quelque chose d'important parce que. On a tous, en fait, il y a des coachs de coachs et on a tous besoin des fois d'avoir quelqu'un qui nous permet de garder le cap et qui est en dehors de notre sphère amicale et justement c'est neutre et ça je trouve que c'est vraiment important et c'est pas un investissement qu'il faut négliger.
Grave, grave, grave. Si vous pouvez vous le permettre, faites-vous accompagner parce que ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et aussi des sous potentiellement. Génial, merci Aurore. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut garder contact avec toi ou voir un petit peu ce que tu partages?
Vous pouvez me retrouver donc sur mon groupe Facebook qui s'appelle Dans la tête d'un recruteur, parce que vous allez rentrer dans la tête d'un recruteur avec moi. Et sinon, sur LinkedIn, donc avec mon nom, Aurore Wisniewski, qui est tellement compliqué que vous allez sûrement le. Tu vas me l'écrire hein, dans la vidéo, parce que Wisniewski, personne ne me retrouve. mais du coup, voilà, vous allez me retrouver. Et puis, je suis assez accessible. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute un petit peu de vos projets de carrière.
Cool, et ben merci beaucoup Aurore. On te retrouve donc sur LinkedIn et sur ton groupe Facebook. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo les uns les autres si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans un parcours de reconversion en fonction du stade où il est, il trouvera certainement des réponses. Merci beaucoup.
Merci Lucie, salut.